Bonjour mes chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série d'émissions, à savoir celle sur les sacrements. Je vous souhaite une bonne écoute. Si vous avez des observations ou objections à formuler, des questions à poser, n'hésitez pas à nous écrire à radio-silence@wanadoo.fr. Nous vous répondrons dans le plus bref délai. Les sacrements. Avant de mourir, Jésus a promis à ses apôtres qu'il ne les laisserait pas orphelins et qu'il reviendrait vers eux. Conférez Jean, chapitre 14, verset 18. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. » Et après sa résurrection, en leur confiant la mission universelle, il leur promet ceci. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Le jour de la Pentecôte, les apôtres s'aperçoivent de la façon dont Jésus tient sa promesse. Aussi apeurés et terrifiés qu'ils étaient après la terrible mort de Jésus, aussi enthousiasmés sont-ils après que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils proclament à tout le monde que Jésus de Nazareth, celui que les Juifs avaient pendu à la croix et qui mourut, était le Seigneur, donc Dieu et le Messie. Or, nous savons que Jésus avait deux natures, une nature humaine et une nature divine. Nous, par contre, nous n'avons qu'une seule nature, à savoir la nature humaine. Or, les deux natures du Christ sont si étroitement liées qu'elles ne forment qu'une seule personne. Les théologiens appellent ce dogme christologique l'union hypostatique. Or, sa nature divine ne pouvait pas mourir puisque Jésus est lui-même la vie. L'amour éternel et divin qu'il y a entre le Père et lui, cet amour divin l'a ressuscité. C'est-à-dire son corps humain a été ressuscité et transfiguré. Il a sa place d'honneur à la droite du Père. Cela veut dire qu'il a tous les pouvoirs et qu'il reviendra dans la gloire. Donc, le monde entier est invité à avoir confiance en l'Évangile. Au fil des temps, la communauté des fidèles s'accroît partout où l'Évangile est proclamé comme la bonne nouvelle. Petit à petit, un nouveau peuple de Dieu se constitue. C'est l'Église de Jésus-Christ. Elle est rattachée à son Seigneur, comme les membres au corps, comme la grappe au cep. C'est pourquoi l'Église est appelée aussi le corps mystique du Christ. Le grand devoir de l'Église est de témoigner au monde entier que Dieu est bienveillant envers tous, qu'il aime chacun de nous et qu'il veut offrir le salut à tout un chacun. C'est pourquoi l'Église est en soi un signe de l'amour et de la proximité du Dieu trinaire. Le Concile Vatican II l'a proclamé le sacrement inaugural, c'est-à-dire quel est le sacrement sur lequel se fondent tous les autres sacrements. Elle est à la fois le signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Que veut dire sacrement ? Sacrement veut dire signe visible d'une réalité invisible, c'est-à-dire la grâce et le salut. Les sacrements sont quasiment les legs sacrés de Jésus. En eux et à travers eux, Jésus s'offre aux hommes et agit en eux en les transformant et en leur donnant la vie divine. Par les sacrements, par les paroles et les éléments rituels, la foi apostolique est nourrie, fortifiée et confessée. Les sacrements sont donc absolument nécessaires à ceux qui croient au Christ, parce qu'ils confèrent aux croyants les grâces nécessaires et vitales sur le chemin de la sainteté. Comme c'est Jésus lui-même qui agit à travers les sacrements, ils opèrent ce qui désigne. Quels sont les sacrements institués dans son Église? Le Concile de Trente a défini 7 sacrements. On y distingue les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation et eucharistie, les sacrements de la guérison, pénitence et onction des malades, et finalement le sacrement au service de la communion et de la mission, ordre et mariage. Il concerne les moments importants de la vie chrétienne. Tous sont ordonnés à l'Eucharistie comme à leur fin spécifique. Le baptême y fonde l'appartenance à l'Église de Jésus-Christ au début de la vie. La confirmation, elle réconforte les jeunes adultes et les sanctifie par le don de l'Esprit-Saint. L'Eucharistie fait participer les fidèles à la vie de leur Seigneur qui reçoivent comme nourriture vitale. Ce sacrement nous unit étroitement à notre Seigneur et il fait de nous une communauté. Le sacrement de pénitence. Il apporte aux pécheurs la réconciliation avec Dieu et le pardon. L'onction. Elle confère aux malades l'espoir et la consolation. Le sacrement de l'ordre. Les diacres, prêtres et évêques sont chargés d'un service particulier dans l'Église. Le sacrement du mariage. Il confère aux époux les grâces nécessaires pour tenir leurs promesses mutuelles d'amour et de fidélité jusqu'à la mort. Que désignent les sacramentaux? Ce sont des signes sacrés institués par l'Église, par lesquels, selon une certaine imitation des sacrements, des effets surtout spirituels sont signifiés et sont obtenus par la prière de l'Église. Par eux, les hommes sont disposés à recevoir l'effet principal des sacrements et les diverses circonstances de la vie sont sanctifiées. Donc, par les sacramentaux, sont sanctifiés certains ministères, certaines circonstances de la vie chrétienne, ainsi que l'usage de certains objets. On prononce une prière accompagnée du signe de la croix, souvent accompagnée d'un signe particulier, par exemple l'imposition des mains, l'aspersion d'eau bénite, etc. Parmi les sacramentaux, les bénédictions et les consécrations occupent une place importante. Elles sont une louange à Dieu et une prière pour obtenir ses dons. On parle de consécration pour une personne, par exemple l'abbesse d'un monastère, ou lorsqu'un objet, autel, église, cloche, est destiné exclusivement à un usage liturgique. On parle de bénédiction lorsque des hommes, enfants, voyageurs, pèlerins, ou des choses, maisons, nourriture, auto, animaux, sont confiés à la protection de Dieu. Nous parlerons plus tard d'autres formes de piété populaire qui accompagnent la vie sacramentelle de l'Église, ainsi que des funérailles chrétiennes. Le baptême. Avec la confirmation et la Sainte Eucharistie, le baptême fait partie des sacrements de l'initiation chrétienne. Il est au début de notre vie chrétienne, de notre vie sacramentelle. Il est le sacrement qui est commun à tous les chrétiens. L'Église remplit ainsi la mission que le Seigneur lui a confiée. De toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Or, les gens qui avaient assisté à la prédication de Saint-Pierre le jour de la Pentecôte étaient tellement bouleversés qu'ils demandaient ce qu'il fallait faire alors. Saint-Pierre leur répondit « Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Mais la bonne nouvelle n'est pas seulement réservée aux Juifs. Dans les actes des apôtres, nous lisons la conversion d'un haut fonctionnaire éthiopien. Philippe, un des sept diacres, le rencontre sur l'instigation de l'ange du Seigneur et lui explique la prophétie d'Isaïe, à savoir le passage du serviteur de Dieu. Chemin faisant, ils arrivent à un point d'eau. L'Éthiopien demande le baptême et Philippe le baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cet homme fut le premier chrétien d'Afrique. Mais qu'est-ce que signifie le mot baptême? Le mot baptême signifie plonger dans l'eau, élément de la vie. Mais attention, celui qui est baptisé est plongé dans la mort du Christ et il ressuscite avec lui comme créature nouvelle. Lorsqu'une personne non baptisée donne sa vie pour Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'elle subit le martyre, elle reçoit le baptême du sang. On parle de baptême de désir chez les non-baptisés qui font le bien, s'engagent pour leur prochain, ainsi, parfois sans le savoir, prennent la suite du Christ. Nous croyons aussi que les enfants morts, sans baptême, sont confiés à la miséricorde de Dieu. Est-ce que le baptême était déjà préfiguré dans l'Ancienne Alliance? Oui, dans l'Ancienne Alliance, on trouve diverses préfigurations du baptême. L'eau qui est source de vie et de mort. L'arche de Noé qui sauve du déluge. Le passage de la mer Rouge qui délivre Israël de la servitude en Égypte. La traversée du Jourdain qui fait entrer Israël dans la terre promise, image de la vie éternelle. Jésus aussi se fait baptiser dans le Jourdain par Jean-Baptiste au commencement de sa vie publique. Après le coup de lance qui a perforé son cœur, le sang et l'eau qui en jaillissent sont signes du baptême et de l'Eucharistie. Qu'est-ce que le baptême opère en nous? Le baptême fonde d'abord un rapport personnel avec Jésus, puis il signifie aussi l'insertion dans la communauté des fidèles, l'Église, d'où le nom de sacrement de l'initiation chrétienne. Il opère le pardon du péché originel, de tous les péchés personnels et les peines dues au péché. Il marque le début d'une nouvelle vie en tant que frère ou sœur de Jésus-Christ, fils ou fille de Dieu. C'est pourquoi les baptisés peuvent appeler Dieu leur Père en priant « Notre Père qui es aux cieux ». Il nous fait ainsi participer à la vie divine trinitaire par la grâce sanctifiante. Le baptême donne part au sacerdoce du Christ et il dispense en nous les dons de l'Esprit-Saint. Le baptême est un début des prémices de Dieu qu'il faut faire fructifier durant toute sa vie. C'est comme un bourgeon qu'il faut arroser continuellement pour faire épanouir la fleur et pour en récolter les fruits. Chacun peut recevoir le baptême, il n'y a pas d'exclu. Et chacun peut le donner même s'il n'est pas baptisé lui-même, pourvu qu'on fasse ce que l'Église fait. Le baptême ne peut pas être répété, il vaut une fois pour toutes. Et on ne peut pas le révoquer non plus. Il nous marque d'un sceau indélébile du Christ. Comment donne-t-on le baptême en cas d'extrême urgence, par exemple pour les nouveau-nés qui risquent de ne pas survivre plus de quelques minutes à l'accouchement, ou pour les mourants non baptisés qui désirent recevoir le baptême, ou en cas de danger de mort ou en cas de guerre quand il n'y a pas de prêtre, etc. Alors, pour donner le baptême, on procède ainsi. À trois reprises, on verse de l'eau sur la tête de la personne à baptiser, tandis que les paroles suivantes sont prononcées. « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Les personnes qui se font baptiser à l'âge adulte passent par une phase d'apprentissage de la foi. On appelle cela le catéchuménat, qui comprend plusieurs degrés. Les adultes désireux de recevoir le baptême s'appellent les catéchumènes, les enseignants, les catéchistes. Et ce qu'ils doivent apprendre, c'est le catéchisme qui comprend tous les dogmes de la foi catholique. Cela vient du mot grec katechein, qui signifie enseigner, proclamer tout haut, annoncer la bonne nouvelle en l'occurrence. Lorsque les parents, les parrains et marraines portent un enfant sur les fonts baptismaux, parce qu'ils veulent lui transmettre non seulement la vie, mais aussi la foi, ils promettent de conduire et d'accompagner leur enfant sur le chemin de la foi. Durant la veillée pascale, les fidèles, adultes et enfants, renouvellent leurs promesses de baptême. Pourquoi est-il fortement recommandé par l'Église de baptiser les nouveau-nés? Tout d'abord, l'Église a toujours baptisé les tout-petits. Car quand un père de famille s'est fait baptiser avec toute sa maisonnée dans l'Antiquité, cela incluait et les enfants et les serviteurs même. Puis, on a grand intérêt à délivrer tout être humain né avec le péché originel du pouvoir du malin aussi vite que possible, car le baptême introduit chacun de nous dans le royaume de la liberté des fils de Dieu. Durant la veillée pascale, l'eau baptismale est consacrée ainsi. Maintenant, Seigneur, regardez avec amour votre Église et faites jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ, afin que l'homme créé à votre ressemblance y soit lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image et renaisse de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Pourquoi recevons-nous un nom particulier au baptême, de préférence celui d'un saint? Eh bien, comme on dit « nomen est omen », cela veut dire que tout nom a un sens et est chargé d'une valeur symbolique. Or, en donnant le nom d'un saint au baptême, on offre au baptisé un modèle de sainteté. En plus, le saint patron l'assure de son intercession auprès de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens, même des hommes, ajoutent souvent à leur nom de baptême celui de la Sainte Vierge, comme par exemple Jean-Marie, Alphonse-Marie, José-Marie, etc. Mes chers auditeurs et mes chères auditrices, voilà, la présente émission est terminée. Merci de votre attention. Je vous dis au revoir jusqu'à la prochaine fois. Votre Véronique.